Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. La place et le pouvoir des femmes dans nos sociétés. Regard avec nos invités à quelques jours de la Journée internationale des femmes. Azadeh Khan, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, professeure de sociologie à l'Université Paris Diderot, directrice du Centre d'enseignement et de recherche pour les études féministes et auteure de Femmes et pouvoirs en islam qui vient de paraître aux éditions Michalon. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Muriel Salmona, psychiatre et psychothérapeute, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur d'un Que sais-je sur le harcèlement sexuel aux presses universitaires de France à paraître le 3 avril prochain. Bonjour.
Bonjour.
Et Geneviève Garrigos, responsable de la région Amérique à Amnesty International. Bonjour.
Bonjour.
Le 8 mars, Journée internationale des femmes, qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans les débats actuels en lien avec la situation des femmes, Muriel Salmona?
Alors, ce qui me retient le plus, c'est la prise de parole des femmes, qui est assez extraordinaire et qui continue depuis 2017, et on les entend beaucoup, mais elles ont beau prendre la parole, leur situation reste encore vraiment très préoccupante, et le respect de leurs droits aussi. Donc, c'est un peu une situation paradoxale, en fait, que l'on vit, où d'un côté elles sont de plus en plus puissantes en quelque sorte en termes de parole, de présence, de révolte, elles sont au cœur d'énormément de révoltes, et puis de l'autre côté elles restent encore à subir une discrimination très importante et des violences qui ne bougent pas, voire qui augmentent, ça on va en reparler. Mmh. Donc c'est vraiment cette situation paradoxale et le fait que du coup il faut vraiment continuer la lutte et faire très attention à ce que rien ne recule, hein, puisqu'il y a vraiment des droits qui sont menacés dans énormément de régions, de pays, voilà.
Azadeh Khan.
Oui, pour aller dans le même sens, je pense qu'effectivement, grâce à l'éducation, grâce aussi aux réseaux sociaux ces derniers temps, on constate effectivement que les femmes prennent de plus en plus la parole, hein, dans différents pays, revendiquent, elles s'organisent, elles luttent, mais en même temps, on constate que en termes de changement voulu, demandé par beaucoup de femmes, on n'en est pas encore là, que les lois ont beaucoup de mal à changer, à se modifier au profit des femmes. Et surtout, on constate que l'un des impacts de la globalisation économique néolibérale est que les femmes, souvent dans beaucoup de pays, subissent en fait la pauvreté tout en travaillant, ce qu'on appelle les travailleuses pauvres, ou encore que leur accès même à l'emploi est de plus en plus difficile. Hein. C'est le cas d'un certain nombre de pays comme l'Iran, par exemple, où carrément il y a des lois pour empêcher les femmes d'accéder à l'emploi. Donc, les problèmes s'accumulent. Le problème aujourd'hui sont des problèmes plutôt globaux que locaux ou nationaux. Et donc, de ce fait, je pense que peut-être la solidarité est de plus en plus nécessaire aussi.
Alors, ce sera intéressant et on le développera, ce différentiel finalement entre femmes du Nord et femmes du Sud, avec un besoin et une quête de justice sociale d'un côté et puis de l'autre, davantage d'égalité de genre, c'est peut-être ce qui distingue le Nord et le Sud. Sur cette première question, Geneviève Garrigos, ce qui retient le plus votre attention dans les débats actuels en lien avec la situation des femmes?
Bien, cette année, nous aurons le 40e anniversaire de la Convention contre les discriminations qui sont faites aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la Déclaration universelle, c'est quand même le texte le plus ratifié. Il a été ratifié par 189 États. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça reste très déclaratif, peut le mettre réellement en œuvre. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont mis des restrictions justement à cette convention, ce qui limite sa portée. Amnesty International, d'ailleurs, a le préambule de son rapport annuel 2018-2019 était centré sur les luttes des femmes, les combats que doivent mener les femmes. Et on n'a jamais vu les femmes autant mobilisées. Mais ce qu'il faut voir aussi, et c'est là où nous mettons nous l'accent, c'est que d'une part, les politiques justement aujourd'hui d'austérité impactent en majorité les femmes. Et d'ailleurs, on a regardé au niveau des études en Grande-Bretagne, on voit que les mesures d'austérité ont été portées à 80% par les femmes parce que justement, c'est elles qui très souvent dépendent le plus des mesures sociales parce qu'elles sont dans les situations les plus précaires et les plus vulnérables. Donc, c'est les premières touchées. Et ce qu'on voit également, et là, c'est un appel très fort que nous lançons, pense, c'est que aujourd'hui, l'espace numérique, hein, les réseaux sociaux, etc., sont vraiment l'espace où les femmes peuvent prendre le plus la parole, parce que même si c'est dur, elles sont moins menacées que si elles prennent la parole dans l'espace public, à l'école, dans leur travail. Par contre, on voit la violence qui se déchaîne, et donc chaque fois que les femmes prennent un espace pour s'exprimer, il y a une réaction extrêmement forte et violente, et nous appelons à lutter contre les propos de haine, contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Attention, nous disons au pouvoir public, nous disons à tous les réseaux sociaux qu'ils doivent mettre en place des politiques pour permettre aux femmes de continuer à s'exprimer, qu'elles ne soient pas agressées, y compris dans l'espace numérique, qu'elles puissent prendre une parole forte.
Alors, vous l'évoquiez, le mouvement MeToo, Balance ton porc, des mouvements qui ont agité et continuent d'agiter le débat occidental. De quelle manière analyser cette tempête et qu'en retenir ? Le MeToo, il a eu du succès aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il y a le mouvement Ni Una Menos en Argentine et plus largement en Amérique latine. MeToo a aussi trouvé un écho parmi les pèlerines de la Mecque avec Mosque MeToo, qui a été lancé après le témoignage d'une Pakistanaise racontant le harcèlement à la Mecque sur Facebook. Mais tout de même, Muriel Salmona, est-ce que le mouvement MeToo est davantage un combat de culture occidentale ?
Alors, certainement, au départ, c'est clair, mais je pense qu'il y a justement quand même ce vent de solidarité qui a déferlé, qui du coup, en cascade, touche énormément de personnes. Mais c'est vrai que depuis le départ de ce mouvement-là, on est monté au créneau pour dire n'oublions pas toutes les femmes. C'est-à-dire n'oublions pas toutes les femmes du monde, bien entendu, et puis n'oublions pas toutes celles qui sont les plus discriminées, les plus marginalisées, les plus précarisées. N'oublions pas les plus vulnérables, les personnes handicapées. Il faut être leur porte-voix. C'est celles qui subissent de loin le plus de discrimination, le plus de violence. Et puis n'oublions pas les filles. Hein, parce que je veux dire, dans ces grands mouvements, dans la lutte qu'il y a pu y avoir vraiment pour les droits des femmes, souvent les filles sont oubliées. Or, c'est là où tout se noue. Et c'est sur elles que pèse en fait le maximum de violence, de contraintes et de non-respect des droits. Donc, MeToo, c'est vraiment l'outil numérique qui a été le médium de ce mouvement-là. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas y avoir accès. Mais c'est une caisse de résonance. Mais ça permet quand même de, justement, si on n'oublie pas d'être solidaire avec toutes les femmes et toutes les filles, je pense que ça va continuer à déferler.
Alors, MeToo, une caisse de résonance. Azadeh Kian, j'évoquais le cas de l'Arabie Saoudite. En Iran, MeToo a eu un écho ou ailleurs dans les pays
islamiques ? À ma connaissance, pas beaucoup. Bien évidemment, il y a toujours quelques militantes des droits des femmes féministes qui s'en saisissent et qui en parlent, essayent de faire quelque chose avec, mais ça n'a pas tellement pris. En revanche, je pense que, par exemple, moi je pense à quelques films cinématographiques qui montraient, par exemple, la question de harcèlement ou de viol et qui ont créé énormément de débats au sein d'un certain nombre de ces sociétés. Et on a parlé de ce fait de viol, on a parlé de l'absence ou de manque des lois, par exemple, pour protéger des personnes harcelées, des personnes violées, violentées, en l'occurrence surtout des femmes. Donc ça a aidé de façon, je dirais, indirecte MeToo dans beaucoup de pays à essayer d'avancer le débat et bien évidemment aussi pour essayer de faire adopter des lois afin de protéger les droits des femmes violées et violentées. Mais je dirais pas plus que ça. Et je voudrais quand même ajouter que MeToo, qui a commencé, donc effectivement, comme ça a été dit, aux États-Unis, a concerné dans un premier temps des femmes qui se trouvent aujourd'hui dans une position de pouvoir, à pouvoir justement dénoncer le harcèlement ou le viol qu'elles auraient subi il y a de nombreuses années de ça. Donc, effectivement, il s'agit des femmes qui ne sont plus très jeunes, qui sont arrivées elles-mêmes dans une position où elles sont protégées du fait de leur position de pouvoir et de privilège associés à ça et qui sont en mesure de dénoncer. Mais on n'a pas vu beaucoup de femmes ouvrières ou petites employées qui osent encore aujourd'hui aller dénoncer leur patron parce que elles vont perdre très probablement leur emploi. Donc ça reste quand même pour moi MeToo non seulement seulement une invention, disons, occidentale, mais en même temps, des classes aisées, femmes appartenant aux classes aisées occidentales. Donc, attention à ne pas trop aller trop vite pour pouvoir dire que ça a pris partout, etc. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais il y a, comme je viens de dire, des militantes des droits des femmes dans ces pays-là font tout pour avancer la cause et aller contre la violence faite aux femmes de manière différente et non pas en prenant MeToo comme modèle. Voilà.
MeToo, finalement, un mouvement d'une certaine manière élitiste, Geneviève Garrigos.
Alors, je dirais pas qu'il est élitiste. Il est certain que c'est un mouvement, et quand on regarde justement à l'échelle de la planète, on est ici chez Géopolitique, donc voilà. Déjà, il y a une première évidence, et ça vient d'être dit, c'est un mouvement qui est principalement urbain et numérique, puisqu'on s'exprime sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il est clair que dans les pays où les femmes ont peu accès au numérique et la population urbaine reste minoritaire, il ne va pas y avoir d'accès. C'est intéressant parce que j'ai trouvé le chiffre en Côte d'Ivoire, où le mouvement a très peu pris, eh bien, il y a 17% de la population qui a accès aux réseaux sociaux, et seul un tiers de ces 17% sont des femmes. Donc on comprend bien qu'à partir de là, ça limite. Ensuite, il y a la question de la culture locale. Et même quand on regarde, par exemple, en Europe, on voit bien que le mouvement a pris beaucoup plus d'ampleur, par exemple, et a eu plus d'impact dans des pays comme l'Allemagne et la Suède. Il faut penser à la Suède, ce pays qu'on considérait comme le pays de l'égalité. On s'est aperçu que c'est là où ça a eu l'impact le plus fort. Il y a eu plus de 400 actrices qui ont porté plainte. On a vu l'année dernière qu'avec le prix Nobel de littérature a dû être annulé parce que l'Académie des Nobel avait été entachée par le scandale. Et c'est Jean-Claude Arnault qui avait été dénoncé et qui a été condamné à 2 ans pour viol. Par contre, ce qu'on va constater aussi dans d'autres régions, et c'est par exemple quand on prend l'Amérique latine, et ça c'est le phénomène important de MeToo, c'est que on est passé de la peur de dénoncer individuellement parce qu'on allait être humilié et rejeté, à un nous collectif, c'est-à-dire la levée. C'est pas du risque, parce qu'on voit bien, même en France, comment les personnes qui vont dénoncer avec le hashtag MeToo sont emportées. Mais on voit que, par exemple, en Argentine, pour prendre l'Amérique latine, c'est vrai qu'il y avait eu d'autres mouvements antérieurs. Et on l'avait vu, y compris en Chine, par exemple, où il y avait déjà des campagnes de lutte contre le harcèlement. C'est-à-dire que la lutte féministe n'a pas commencé avec MeToo. Oui, c'est son ampleur qui a surpris.
Pareil en Inde. Là où les mouvements existaient déjà, MeToo, mais de façon limitée, je pense, a apporté sa pierre à l'édifice, de la lutte. Mais c'est pas MeToo qui est à l'origine de la mobilisation des femmes dans ces pays pour lutter contre le viol, la violence.
Mais par contre, et je finirai mon propos là-dessus, c'est que ce qui a été très intéressant justement, et c'est pour ça que je prenais le cas de l'Argentine, parce que ce qui a marqué l'Argentine l'année dernière, c'est quand même le mouvement pour l'avortement légal. On a suivi ça toute l'année avec l'Assemblée nationale, plus le Sénat, on a perdu de quelques voix, mais très peu de voix. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que justement là, le côté humiliation, la femme qui dit ce qui lui est arrivé, comment elle a été agressée. Là, le mouvement, il y avait déjà eu Ni Una Menos avant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des grandes mobilisations par rapport au féminicide, la violence, etc. Mais ce qu'on a vu et ce qui a donné de l'ampleur sur l'avortement, c'est que les femmes ont osé, dans ce nous collectif, de parler de leur avortement. C'est-à-dire que c'était plus une honte de parler de l'avortement. Et ça, c'est une contribution de MeToo, c'est-à-dire comment à l'échelle plus générale, les femmes vont pouvoir parler de certaines choses sans se sentir en perdant une forme de honte. Et ça, c'est important.
On parlera de la question de l'avortement, la question du divorce aussi, pour comprendre un petit peu quelles sont les inégalités et sur quoi elles reposent précisément. Pour poursuivre avec les sujets d'actualité, il y a la question du voile qui a refait son apparition cette semaine en France avec la décision d'une enseigne de sport française de renoncer à commercialiser un hijab de sport après une journée de controverse sur ce couvre-tête destiné à la course à pied. L'association féministe Les Effrontés dénoncent un climat raciste et une énième polémique qui consiste à refuser aux femmes voilées la possibilité d'avoir une vie normale. Muriel Salmona, un commentaire ?
Oui, c'est comme toujours, d'une certaine manière, les choses retombent sur les femmes, sur leur habillement, sur leur comportement. Et là, on voit bien que c'est cette pression à la fois, effectivement, de discrimination et voire même une sorte de pression sexuelle derrière qui pèse à nouveau sur elle, en sus de toutes les considérations racistes, islamophobes. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un concentré de ce que peuvent subir les femmes, particulièrement en termes de harcèlement de rue aussi, puisque justement, on parlait de harcèlement, le harcèlement que subissent les femmes. Et en tout cas, c'est impressionnant de voir à quel point il y a cette libération de cette parole sexiste et de haine. Mais par ailleurs, il y a aussi, je pense, ce qui est un peu positif, là aussi une libération de la parole pour revendiquer des droits et ne pas tout confondre. Il y a une forme de confusion et d'instrumentalisation catastrophique.
Alors, Azadeh Khan, un commentaire sur cette question et peut-être que vous nous expliquiez déjà, et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, comment la question du voile est vécue de l'intérieur par les femmes elles-mêmes, avec cette opposition entre celles qui le portent, les autres.
Écoutez, pour ce qui se passe en France, ça date pas bien sûr d'aujourd'hui. C'est à chaque fois, ça réémerge. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle un trope orientaliste aujourd'hui, néo-orientaliste, qui à chaque fois réémerge, parce que si vous regardez l'histoire de ces pays-là, au moment aussi de la colonisation, le voile islamique était considéré comme la quintessence de l'être oriental, qu'il fallait civiliser, et pour civiliser, il fallait à tout prix la dévoiler. Et donc, c'est exactement le même discours qui aujourd'hui ressurgit aussi en France, sous prétexte de protéger la laïcité. Or, la laïcité, pour moi, c'est pas obliger les femmes de d'ôter leur voile, mais elles doivent avoir le droit aussi de circuler avec leur voile ou aller courir avec leur voile. Bien sûr, nous n'avons aucune loi en France qui interdit le port du voile. C'est juste qu'il faut laisser le visage en dehors de ce voile, ce qui est le cas de ce voile de Décathlon. Et en fait, on constate cette musulmanophobie en France plus qu'islamophobie, je pense, parce que ça porte sur les musulmans, en particulier les musulmanes. Et donc, encore une fois, on constate que les idéologies racistes, effectivement, ont vraiment pour objet la question du genre. C'est-à-dire que là, c'est que les féministes ont du mal, beaucoup de féministes occidentales et pour le coup françaises ont du mal à voir, c'est à quel point la question du genre est au centre de ces idéologies qui, au final, ont aussi marginalisé les femmes occidentales. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est pour ça que moi, je me permets un petit peu dans ce livre aussi de revenir sur ces questions-là, d'attirer l'attention sur le fait que, au même moment où, par exemple, au 19e siècle, début 20e, on est en train d'imposer le dévoilement aux femmes dans les pays, colonisés à l'époque, au même moment, on interdisait l'accès des femmes occidentales aux droits politiques. Et c'était les mêmes qui le faisaient. Lord Cromer britannique, par exemple, qui était gouverneur d'Égypte à l'époque, le faisait. Donc, à ne pas oublier ça, donc cette dimension importante de marginalisation. Et aujourd'hui, quand je vois qu'un certain nombre de féministes, et non pas les moindres en Occident et en France en particulier, vont dans le sens de cette idéologie qui marginalise, ça me fait beaucoup de peine. D'autant que, à leur avis, être musulmane, ça veut dire rester chez elle, rester dans la cuisine, et que comme si on interdisait aux musulmanes, tout en gardant leurs convictions, de sortir dans l'espace public. Or, comment peut-on effectivement, même si on pense qu'il faut les laïciser, comment les laïciser tout en les gardant chez elles? Donc voilà, c'est dans ce sens que je ne comprends absolument pas les... Et bien sûr, je désapprouve, je pense que ces femmes doivent être libres à sortir, à courir, quitte à se voiler. Après, un autre débat est de savoir si, selon l'islam, il faut absolument se voiler ou non. Ça sera dans un deuxième temps, je pense.
Exactement, merci Azadeh. Nous retrouvons nos invités, Azadeh Khan, Geneviève Garrigos et Muriel Salmona. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, la place et le pouvoir des femmes dans nos sociétés. Regard avec nos invités à quelques jours de la Journée internationale des femmes. Par téléphone, Muriel Salmonin, psychiatre et psychothérapeute, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur d'un Que sais-je sur le harcèlement sexuel, à paraître le 3 avril prochain aux presses universitaires de France. Azadeh Kian, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, directrice du Centre d'enseignement et de recherche pour les études féministes et auteur de Femmes et pouvoirs en islam qui vient de paraître aux éditions Michalon, et Geneviève Garrigos, responsable de la région Amérique à Amnesty International France. Geneviève Garrigos, on évoquait dans la première partie la question du voile qui a donc refait surface cette semaine en France avec la décision d'une enseigne de sport française de renoncer à commercialiser un hijab de sport après une journée de controverse sur ce couvre-tête destiné à la course à pied. Certains dénoncent un climat raciste et une énième polémique qui consiste à refuser aux femmes voilées la possibilité d'avoir une vie normale. Un commentaire.
Ce que l'on constate, c'est comment, à travers les siècles, la question du contrôle des corps des femmes reste un enjeu de société. Et que ce soit à travers le vêtement, que ce soit à travers justement le fait qu'elles puissent sortir ou pas de chez elles, les droits sexuels et reproductifs, pour nous, c'est un outil de plus de contrôle. Et donc, on va avoir des sociétés où on veut dénuder les femmes, où un vêtement va symboliser, là c'est le hijab, c'est un foulard, hein, qui symboliserait l'oppression. Et de l'autre côté, on va avoir des pays qui vont vouloir forcer les femmes à porter ce vêtement. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une question de contrôle. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la femme n'a pas son mot à dire. Elle ne peut pas choisir. C'est-à-dire qu'elle est face à une injonction sur ce qu'elle doit faire ou pas. Et moi, j'aime bien ce que disent justement les féministes en Amérique latine. Elles disent être féministe, ce n'est pas imposer des choix aux autres, c'est aider ses sœurs à pouvoir réaliser ses choix. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir choisir. Et celles qui veulent s'opposer au voile, il faut les soutenir. Celles qui veulent pouvoir le porter pour réaliser des activités, etc., il faut aussi les soutenir. C'est ça le sens de notre engagement. C'est la liberté du choix qui doit rester au cœur de notre préoccupation.
Azadeh Kian, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Geneviève Garrigos?
Oui, tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, là, il faut soutenir la liberté du choix des femmes, qu'elles souhaitent porter le voile ou ne pas le porter. Mais beaucoup de ces femmes, en tout cas, toutes les recherches qu'on a en France le montrent, la majorité écrasante des femmes qui en France se voilent le font de leur propre gré. Il n'y a pas de mari ou père ou frère derrière qui les oblige à porter le voile. Quand une femme sort de chez elle pour courir, c'est pas le mari qui l'oblige. Écoutez, on sait que effectivement le pouvoir patriarcal souhaiterait que ces femmes restent à la maison, ne sortent pas, ne courent pas, ne se présentent pas dans l'espace public. Donc, au contraire, il faut les laisser sortir. Et moi, je comprends pas. Par exemple, il y a aussi un certain nombre de féministes françaises, souvenez-vous, qui sont même contre l'idée que les femmes saoudiennes ou iraniennes qui sont obligées de porter le voile, etc., participent à des Jeux olympiques. Et ça, non plus, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut laisser les femmes sortir, être présentes en tant que sportives ou en tant que scientifiques ou autres, avec ou malgré leur voile, effectivement, vous voyez, et afin de permettre, à travers cette présence, de créer un dialogue qui nous manque. Dans ce pays, en France, on n'a pas de dialogue entre les voilés et les non-voilés. C'est toujours la guerre, c'est toujours ce conflit, à mon avis, absurde. Et au final, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie que les inégalités sociales hommes-femmes ne trouvent pas son origine ni dans le voile islamique, ni encore moins dans la religion. Donc, l'origine des inégalités sociales est ailleurs, et à mon avis, ça nous permet pas de voir la réalité de ces inégalités sociales et d'où ça vient.
Alors, moi, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on sorte de France pour voir avec vous comment ça se passe en Iran, Azadeh Kian. On a bien vu que la question du voile prenait une dimension assez intéressante avec les agissements des femmes iraniennes qui rejettent le port obligatoire du voile, estimant qu'il symbolise l'ordre moral des islamistes au pouvoir. Il y a eu un mouvement entre janvier et février 2018 avec des femmes qui ont décidé d'enlever leur foulard blanc, de l'agiter au bout d'un bâton. Bon, ce mouvement que vous avez baptisé en Iran « Fille de l'avenue Angela », je ne sais pas si je le prononce correctement, il ne s'est pas transformé en action collective. Hein. Elles sont demeurées très individuelles. Quelle analyse faites-vous sur cette question?
Alors, tout d'abord, moi je voudrais dire que cette histoire effectivement des Iraniennes courageuses qui enlèvent le voile obligatoire a été instrumentalisée en France encore hier et avant-hier en disant mais comment voulez-vous qu'on permette que les femmes sortent voilées en France alors que les Iraniens sont en train d'enlever leur voile malgré les risques encourus. Mais c'est deux choses différentes. En Iran, le port du voile est obligatoire et cela fait 40 ans et j'y ai été le 8 mars 1979, tout de suite après la victoire de la révolution, quand le port du voile est devenu obligatoire en Iran et une législation obscurantiste a été mise en application, on était plusieurs milliers de femmes à Téhéran dans la rue contre l'obligation de porter le voile. Parce que la revendication, c'était, il revient aux femmes de décider si elle veut ou non le porter. D'une part. D'autre part, donc, ça fait 40 ans que beaucoup de femmes iraniennes, notamment aujourd'hui dans la jeune génération, c'est-à-dire la majorité écrasante de la population, qui n'était même pas encore née au moment de la révolution, a refusé de respecter l'obligation de porter le voile. Tout d'abord en le mal portant, en laissant des mèches de cheveux dépasser, et puis petit à petit et plus récemment, carrément par exemple, savez-vous qu'à Téhéran, 25% des conducteurs sont des conductrices. Et une fois dans leur véhicule personnel, elles laissent glisser le voile sur les épaules.
C'est-à-dire, on est dans l'espace privé.
Voilà, en disant, je suis dans ma voiture, c'est mon espace privé, donc j'ai le droit. Et donc, ça a créé énormément de débats aussi au niveau des législateurs, même, qu'est-ce qu'on fait ? Et plus récemment, comme vous l'avez dit, en décembre 2017, janvier 2018, il y a en gros 35 femmes, jeunes femmes, qui ont décidé effectivement de ôter leur voile dans la rue, l'agitant sur un bâton pour protester contre, là encore, le caractère obligatoire du voile. Moi, j'ai lu beaucoup de leurs témoignages, ce qu'elles disaient, je ne demande pas que toutes les femmes ôtent leur voile. Moi, je dis, je n'aime pas le voile, laissez-moi ne pas le porter. C'est-à-dire que là encore, c'est une liberté de choix individuel, personnel. Sauf que ça n'a pas pris parce que les Iraniennes qui sont contre le port du voile ont à leur manière trouvé des stratégies de le mal porter en montrant aux autorités qu'elles ne sont pas d'accord, qu'elles ne respectent pas ces préceptes, qu'elles ne respectent pas ces lois discriminatoires et qu'elles sont pour la liberté de choix. Mais en le mal portant, de toute façon, elles sont en train d'enfreindre aussi les lois de la République islamique, mais effectivement, son mouvement Défi d'Avenue Enghelab n'a pas été étendu à beaucoup d'autres femmes. 35 femmes sur les 6 millions que compte Téhéran n'est pas grand-chose.
Alors, si vous voulez bien, on passe à un autre sujet et je me tourne vers vous, Muriel Salmona. La France, on en revient à elle, loi du 3 août 2018 qui est venue renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec les principaux articles de la loi contre les violences sexistes. Il prévoit un délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs, le renforcement de la protection des mineurs face aux agressions sexuelles et aux viols commis par un majeur, et la création d'une infraction pour verbaliser le harcèlement de rue. Est-ce que tout cela correspond à des avancées qui vous semblent importantes et suffisantes ?
Donc, cette loi entre dans le cadre de cette grande cause du quinquennat sur l'égalité femmes-hommes. On avait pas mal d'espoir, on a été déçus pour certaines choses. Pour d'autres, on a obtenu des modifications législatives importantes, comme par exemple une modification de la définition du viol, une modification de la définition du harcèlement sexuel qui permet de prendre en compte l'ère numérique, justement, que les femmes subissent de plein fouet sur les réseaux sociaux. Sur les violences conjugales, une circonstance aggravante avec la présence des enfants, la notion de circonstance aggravante par rapport à tout ce qui est économique. Enfin, il y a pas mal d'éléments comme ça qu'on demandait depuis longtemps, qu'on a obtenu. Et puis, on a été extrêmement déçus par rapport au seuil d'âge du consentement qu'on espérait obtenir pour les enfants, donc obtenir un âge en dessous duquel on ne pouvait pas rechercher le consentement d'un enfant à un acte sexuel ou quel qu'il soit.
Ce seuil, c'est 15 ans.
Alors, c'est ce qu'on voulait, oui. Sauf qu'il n'est pas dans la loi. C'est-à-dire que la loi, simplement, dans le cadre de la définition de contrainte, on dit qu'il peut y avoir, en dessous de 15 ans, une recherche de la vulnérabilité et du discernement pour définir la notion de contrainte. Mais ça n'a rien à voir avec un seuil d'âge. C'est-à-dire que c'est toujours au cas par cas. Et surtout que, justement, en 2018, on a appris avec Infostat Justice que l'application de la loi, particulièrement pour les viols, est catastrophique, puisqu'il y a, depuis 10 ans, 40% de condamnations en moins. C'est-à-dire que déjà... sur l'ensemble des viols, il y a moins de 10% de plaintes et il y a 73% de classement sans suite sur ces moins de 10%. Et au final, sur ces plaintes, il va y avoir que 10% qui vont aboutir à des viols jugés au tribunal. Donc en fait, on est dans une impunité totale et une loi qui n'est pas appliquée. Et là, on n'en sort pas. En fait, on n'a pas du tout agi sur un élément vraiment important, c'est cette notion de consentement. Qu'est-ce que c'est qu'un consentement valide, libre et éclairé? Et tant qu'on ne va pas le définir très clairement, eh bien les viols ne seront jamais condamnés. Et c'est ce qu'on voit.
Geneviève Garrigous. Oui, par rapport à cette question, il y a effectivement déjà la notion du consentement. Parce que on voit à travers le monde, il y a un certain nombre de pays qui, justement, criminalisent le viol. Sauf que la grande difficulté, c'est à la victime de ce viol d'apporter des éléments comme quoi elle a été violentée, forcée, elle s'est défendue, voire il faut qu'elle montre qu'elle a été griffée, cognée, etc. Or, et c'est là où c'est très important, la Convention d'Istanbul, justement, contre ces violences, eh bien, précise bien que, dans matière de viol, ce qu'il faut, c'est que la personne qui est accusée fasse, elle, la preuve qu'elle a eu le consentement de celle qui était, soi-disant, cette victime. Et ça, d'ailleurs, c'était un des impacts de MeToo en Suède, puisque la Suède a été, je crois, le 10e pays à adopter cette définition cette année, hein, c'est-à-dire que c'est à la personne accusée d'apporter la preuve du consentement. Et c'est très, très important, parce qu'on voit bien, justement, le contexte du viol, l'effet de sidération, etc., qui font que les personnes ne peuvent même pas se défendre, elles n'en ont pas les moyens ni physiques ni psychologiques. Donc ça, c'est le premier point très important. Et parallèlement, ce que l'on voit aussi, c'est non seulement donc on n'avance pas par rapport à ça, mais on voit qu'il y a une régression au niveau justement de l'éducation sexuelle, de l'accès aux contraceptifs, de l'accès à l'avortement. Et l'un avec l'autre font que ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour les femmes aujourd'hui.
Alors avec vous, Zadeki, on regarde sur les pays musulmans et peut-être sur l'Iran en particulier, sur ces questions de protection des femmes.
Bah écoutez, on est vraiment très très loin du compte. Après, vous avez, vous savez que la majorité écrasante des cas de viol, par exemple, se fait au sein de la famille, hein, par des proches, des amis. Donc déjà, il faut pouvoir les dénoncer. Dénoncer à qui? Il faut avoir un système judiciaire qui vous écoute et qui accepte aussi de vous croire, hein, ce qui n'est absolument pas le cas. Dans beaucoup de ces pays, on constate effectivement que les droits des femmes ne sont absolument pas respecter. Maintenant, dans certains de ces pays, et je pense aussi grâce à la CEDEF, donc la Convention contre toutes sortes de discriminations à l'encontre des femmes, en tout cas, on a pu voir effectivement un certain nombre de progrès, en tout cas législatifs, par exemple, je pense à la Turquie en particulier, et les luttes des femmes elles-mêmes. Et là, on a constaté que quand ces femmes, ces militantes ont laissé de côté leur appartenance politico-idéologico, etc. Est-ce que je suis plutôt laïque ou plutôt musulmane? Et qu'elles se sont mises ensemble, eh bien, elles ont réussi à faire quand même adopter des lois pour mieux protéger les droits des femmes contre la violence, par exemple, contre le viol, etc. Mais on est vraiment encore très, très loin du compte. Alors après, moi, je pense que c'est un ensemble d'inégalités, un ensemble de discriminations. C'est pas un hasard si dans un pays comme l'Iran, ou si vous regardez le code civil, regardez la loi constitutionnelle, le code pénal, tout ça, on voit vraiment des lois éminemment discriminatoires par rapport aux droits des femmes. On peut pas s'attendre à ce que tout à coup il y a une loi au profit des femmes concernant, par exemple, l'aspect violence, l'aspect viol. Je pense que c'est un tout qu'il faut prendre en compte, et malheureusement je ne peux pas dire que sur ces questions-là il y a eu une avancée législative. législative, ni en Iran, ni d'ailleurs même en Égypte ou dans un certain nombre de pays, exception faite peut-être de la Tunisie, peut-être non, de la Tunisie, où quand même il y a eu des changements assez importants concernant les lois, mais on n'en est pas encore là. On est très loin d'une égalité au regard des lois.
Alors il y a aussi, pour ce qui est des inégalités, mais malheureusement le temps presse, il y a aussi l'accès à l'avortement, la question du divorce, et je reprends ce que vous disiez Muriel Salmona dans la première partie de l'émission. Alors il y a deux choses, il faut d'une part faire progresser dans un certain nombre de dossiers la situation des femmes, leurs revendications, etc. Et puis autre phénomène, c'est faire attention à ce que rien ne recule. Donc finalement, si on devait apporter une conclusion à notre conversation d'aujourd'hui, rien n'est acquis.
Oui, alors vraiment rien n'est acquis, et puis on le voit à tout niveau, c'est-à-dire que même si on a des lois qui progressent, des lois qui nous conviennent de plus en plus, encore faut-il qu'elles soient appliquées et qu'elles ne soient pas remises en compte. Bon, là on vient de parler des violences sexuelles, on a un arsenal théoriquement qui est pas si mauvais en France, mais c'est pas pour autant que c'est appliqué, c'est absolument pas appliqué. Et la femme continue à rester un objet sexuel, un objet domestique en fait, une esclave domestique en quelque sorte, et le corps des femmes continue à être un enjeu politique énorme. Et là il faut être d'une vigilance mais sans fin en quelque sorte.
Geneviève Garrigou.
Par rapport à la violence, justement, à la régression des droits, si on revient un petit peu sur l'Amérique latine, rien que par exemple sur les féminicides, on voit que sur les 25 premiers pays dans le monde en taux de féminicide, il y en a 14 qui sont en Amérique latine. C'est pour ça qu'aussi le mouvement Ni Una Menos a autant pris. On voit aussi que c'est une des régions où l'accès à l'avortement est un des plus difficiles, parce qu'il y a de nombreux de pays, par exemple comme le Salvador, où c'est interdit en toutes circonstances, même quand la vie de la mère est en danger, et avec des jeunes femmes qui se retrouvent en prison 30 ans, 40 ans pour une fausse couche. Et en plus, quand elles ont été victimes de viol, elles ne peuvent même pas avoir accès à l'avortement, même des enfants de 11 ans. En ce moment, on a la situation d'une jeune fille en Argentine, à Tucumán, pour lesquelles on est extrêmement mobilisés. Donc, on voit cela. Par contre, et là, je dirais que c'est vrai qu'on voit au Guatemala et en Pologne, par exemple, on voit comment d'ailleurs ils veulent revenir, y compris sur l'avortement et la contraception. Par contre, et c'est là aussi où je pense qu'il y a une lueur d'espoir, c'est la mobilisation des femmes, et il y a des femmes extrêmement fortes et qui se mobilisent. On voit, par exemple, Amal Fati, en Égypte, cette jeune femme qui a dénoncé sur les réseaux sociaux le harcèlement. Alors, en Égypte, maintenant, on parle du harcèlement, mais elle est en prison. Celles qui se sont mobilisées pour obtenir qu'en Arabie Saoudite, les femmes puissent conduire, ces défenseuses, elles sont aujourd'hui en prison. Et là, on doit avoir une solidarité, nous aussi, en tant que femmes, avec toutes ces femmes qui se battent dans le monde, quelle que soit leur opinion politique, religion, se battre avec elles pour que les droits des femmes puissent avancer, cessent de reculer, parce qu'aujourd'hui, on est menacé.
Azadekian, très rapidement.
Très rapidement, effectivement, on constate des reculades par endroits et la stagnation par d'autres endroits. Ce que je constate dans la région du Moyen-Orient, les guerres récentes, les conflits ont fait reculer les droits des femmes souvent, et que finalement leurs droits sont toujours repoussés au second plan par rapport aux autres enjeux. Donc attention, quand on envahit un pays, il faut aussi se dire qu'on est en train vraiment de priver les femmes de ces pays pendant des décennies et décennies de leurs droits, parce que on sait que les conflits ont toujours eu ces genres d'impact, et ça c'est clair et net au Moyen-Orient, ou alors on va vers une instrumentalisation par les hommes en pouvoir, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite qui vient d'être dit, et qui sera au final pas au profit des femmes, parce que c'est une instrumentalisation. Et donc il faut que les femmes puissent, à travers leur mouvement par le bas, influer sur leur société et au final sur les hommes au pouvoir.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à Zadekian. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, directrice du Centre d'enseignement et de recherche pour les études féministes et auteur de Femmes et pouvoirs en islam, qui vient de paraître aux éditions Michalon. Muriel Salmona, psychiatre et psychothérapeute, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur d'un Que sais-je sur le harcèlement sexuel, à paraître le 3 avril prochain aux presses universitaires de France. Et Geneviève Garrigos, responsable de la région Amérique à Amnesty International. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.